Vous êtes avec Raphaël Duchemin pour La France Bouge et il est temps de connaître la solution du jour trouvée par Elisabeth Assayag.
Oui, des commerçants de quartier dans l'ombre, comment les rendre visibles et accessibles? La solution, Elisabeth, c'est petitcommerce.fr.
Oui, parce qu'un commerce de proximité sur deux n'est pas visible sur Internet. Il ne ressort pas sur les référencements si vous les tapez. Mais on ne les voit pas automatiquement. Et pourtant, quand on sait qu'on passe en moyenne 4 heures par jour sur Internet, ce serait bon de pouvoir les remarquer. Ainsi, petitcommerce.fr accompagne les commerçants de quartiers de toute la France à être plus visibles en ligne pour ne pas se faire écraser par les plus grands. Comment ? Eh bien, grâce à des portraits de ces commerçants, parce que souvent, derrière ces petits commerçants, il y a une belle histoire que raconte petitcommerce.fr. Bonjour Jonathan Chollet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de petitcommerce.fr, cette plateforme qui donc valorise les commerces de proximité. Comment vous est venue cette idée ? Parce que je crois que vous êtes vous-même fils de commerçant, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Donc je suis fils de commerçant, j'ai grandi juste au-dessus de la boutique familiale. Mes parents tiennent une boucherie charcuterie depuis plus de 35 ans à Saint-Nazaire dans l'ouest de la France. Et au fil des années, j'ai vu mes parents, mais aussi les autres commerçants, de plus en plus concurrencés par la grande distribution, les chaînes de magasins et puis plus récemment le e-commerce. Et l'une des difficultés en fait, qu'ont les commerçants, c'est de se faire connaître grâce au numérique. Comme vous l'avez dit, il y en a un sur deux qui n'est pas visible, c'est un gros problème. Et c'est pour ça qu'avec mon associé, lui aussi, fils et même petit-fils de commerçants, on a décidé de créer un site pour les valoriser et former les commerçants au numérique.
Vous avez voulu réparer un peu tout ça à travers votre plateforme.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous racontez sur votre site ?
Alors l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le côté humain, l'histoire des commerçants, c'est souvent des histoires de vie.
Par exemple.
Ce sont des passionnés. Alors typiquement, on a un ancien rugbyman qui est devenu boulanger. On a un des rares chocolatiers bio à Argenteuil, en région parisienne. On a aussi une boutique qui est assez incroyable, qui s'appelle Le Quai West à Saint-Nazaire, qui propose des produits qui sont fabriqués dans des centres d'aide par le travail, et notamment des sacs de plage faits à partir de voiles recyclées. Et la boutique en elle-même est une entreprise de réinsertion, donc elle emploie des personnes en réinsertion, donc elle les aide à trouver et à se former, à devenir commerçant en fait.
Et donc toutes ces personnes-là, tous ces commerçants, vous les aidez, vous les accompagnez aussi à gérer leurs propres réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on les voit sur votre site et ensuite il y a un accompagnement.
C'est ça, l'objectif premier c'est de donner de la visibilité aux commerçants via les portraits, mais on ne s'arrête pas là, on va aussi aider nos commerçants à être plus visibles et à mieux communiquer sur Internet d'une manière générale, et ça passe par des formations. Donc concrètement, il y a un accompagnement individuel et collectif. On a sur notre site des formations, des petits tutoriels vidéo qui leur permettent d'apprendre à utiliser Facebook, Instagram, à bien gérer leurs avis quand ils en ont. Et l'idée, c'est de les mettre dans une dynamique positive.
Notre coach, Thomas de Richebourg.
Et c'est une application c'est simplement un site internet ou il y a une application?
C'est aujourd'hui un site internet et pour une bonne raison. C'est ce qu'on veut donner, c'est de la visibilité à nos commerçants. Oui. Et aujourd'hui, on arrive à rendre nos portraits très bien référencés sur les moteurs de recherche.
Donc on ne commande pas, on les découvre.
Non, on ne peut pas commander et c'est vraiment voulu. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se déplacent dans les boutiques, aillent rencontrer les commerçants de leur quartier. Comme vous l'avez dit, il y a des histoires incroyables, il y a des produits, il y a un vrai savoir-faire. Ce qu'on veut, c'est que les gens profitent aussi des conseils du commerçant, de tout le lien social qu'il peut y avoir dans les commerces.
Et vous couvrez sur toute la France et tout le territoire national ou c'est simplement encore une région ?
Oui, alors aujourd'hui, on est vraiment déjà dans toute la France et notre ambition, c'est d'accompagner des commerçants partout. Ça, on le fait grâce à des personnes localement sur le territoire qui vont rencontrer les commerçants, voilà, des relais, et qui ont un peu les mêmes valeurs que nous, à savoir la qualité, l'authenticité, le savoir-faire, l'humain.
Ça, c'est l'artisanat, c'est essentiellement l'artisanat.
Beaucoup d'artisans, mais pas seulement, il y a aussi des commerçants qui sont tout simplement passionnés, qui vont vous conseiller, qui ont une personnalité assez extraordinaire. C'est ça aussi qui
fait... Vous incitez à revenir à l'intérieur du commerce.
Oui, et ces valeurs-là, en fait, on constate qu'elles sont de plus en plus partagées par les consommateurs. Ce qu'on défend, ce qu'on porte depuis 3 ans maintenant, on sent qu'il y a un vrai relais au niveau des consommateurs. Il y a de plus en plus de gens partout en France, qui veulent mieux consommer, moins consommer, mais mieux consommer, et ça commence à aller dans les petits commerces.
Est-ce que justement les petits commerçants que vous avez aidés à avoir cette visibilité ont un retour de leurs clients? Qu'est-ce qu'ils disent?
Oui, alors d'abord nous, on permet à nos commerçants d'avoir de la visibilité supplémentaire, donc concrètement, c'est davantage de clients. En moyenne, on apporte 10 nouveaux clients par mois à nos commerçants.
Oui.
On leur propose un accompagnement personnalisé. Donc, ils sont plus perdus par rapport au sujet du numérique qui les dépasse souvent. Et enfin, ils sont dans une dynamique positive collective. C'est-à-dire que notre site, il rassemble des commerçants. Ils peuvent même se parler entre eux. Ils échangent entre eux, nos commerçants. Et ça, c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup, en fait. Le fait d'être une communauté de commerçants indépendants qui vont ensemble pour développer leur activité.
Et vous...
Non,
les yeux.
Non, Thomas,
et la boucherie, alors, c'est vous qui allez la reprendre ou pas celle de vos parents?
À vrai dire, en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait un repreneur. Alors, si quelqu'un est dans l'Ouest, en France, un
elle
jeune,
s'appelle comment votre
là, c'est la boucherie Cholet, voilà, Saint-Nazaire. Et, et il suffit tout simplement de taper boucherie Saint-Nazaire ou boucherie Cholet sur les moteurs de recherche. Vous la trouverez très facilement grâce au portrait qu'on a fait, puisque mes parents ont été nos premiers clients, nos premiers ambassadeurs. Et aujourd'hui, ils cartonnent sur Facebook, ils cartonnent sur Instagram. Donc, c'est une fierté déjà.
Environ combien de commerçants référencés chez vous maintenant
aujourd'hui, déjà plus de 300 commerçants en direct. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis fin de l'année dernière, on a maintenant des villes qui nous sollicitent
pour des collectivités
et accompagner leurs commerçants. Donc s'il y a des élus qui nous écoutent et qui veulent justement revitaliser leur centre-ville, on sait que c'est aujourd'hui un sujet très politique, le commerce. Nous, on est là pour vous aider parce qu'on parle le même langage que les commerçants et qu'on a vraiment des valeurs fortes. C'est celle d'aider le commerce de proximité partout en France.
Il faut aller voir les maires et les présidents de région.
Exactement.
Oui, voilà, s'ils nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous
écouter. Je suis sûr qu'ils nous écoutent. Génial. C'est petitcommerce.fr. Bravo pour ce que vous faites pour les commerçants. C'est important, c'est vrai, de redonner vie à nos quartiers.
Merci pour votre accueil.
Et à nos belles boutiques de quartier. C'était La Solution avec Elisabeth Assayag.
Il est midi 57.
Europe 1.
Et on reste ensemble, bien sûr. On va vous ramener en 2019 pour prendre des nouvelles des candidats et des lauréats des trophées de l'avenir Europe 1. Que sont-ils devenus? Vous le saurez dans quelques minutes avant de découvrir, évidemment, le palmarès demain des trophées 2020. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
La France bouge avec vous et aujourd'hui, on va aller en arrière. C'est assez rare, d'habitude on regarde devant, mais c'est pour une bonne cause parce que nous recevons certains des candidats et des lauréats des Trophées de l'Avenir 2019. Ils sont avec nous aujourd'hui, plateau spécial, parce que ce soir, nous remettrons les Trophées de l'Avenir 2020 pour cette 5e édition. Thomas de Richebourg sera avec nous, évidemment. Elisabeth Assayag aussi pour remettre... pour donner des nouvelles. Et alors, chaque année, ces Trophées de l'Avenir, c'est vrai que c'est un moment important pour regarder ce qui se passe dans les entreprises, dans les associations, dans les territoires qui font bouger la France et qui font évidemment bouger la société. Que sont devenus ceux qui étaient avec nous l'année dernière? On va donc vous donner de vos nouvelles et on va... commencez par vous, Franck Zal. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Emarina, premier transporteur d'oxygène universel à visée thérapeutique, sang universel issu d'un ver marin. Vous nous aviez bluffé l'année dernière. Vous aviez gagné d'ailleurs le trophée Santé, Trophée de l'Avenir 2019. Comment ça va, Emarina, depuis les trophées 2019?
Et Marina, ça va bien. C'est une voiture qui va très très vite, donc il faut s'adapter en fait au changement, à l'évolution, etc. Mais voilà, donc on est aujourd'hui en train de préparer un nouvel essai clinique. Donc 460 patients vont bénéficier de la technologie en fait dans toute la métropole et puis dans tous les DOM. Donc vous savez, c'est une problématique en fait. Donc l'un de nos produits, c'est la greffe d'organes. Quand vous êtes par exemple à La Réunion, il n'y a pas de centre de transplantation, donc vous rapatriez les potentiels receveurs en fait en métropole et ils attendent en fait un greffon. Donc là, ça va permettre d'envoyer des greffons en fait, à La Réunion pour permettre en fait, aux personnes de rester sur l'île.
Oui, parce que ces vers, ils ont une particularité. Ils contiennent une molécule qui permet au sang de se conserver durablement 4 ans, alors que le sang humain ne se conserve en principe que 42 jours.
Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, en fait, on est capable dans Emarina de faire du sang en poudre, de l'hémoglobine en poudre. Vous voyez la petite poche rouge qui contient 450 ml de globules rouges. Nous, on est capable d'avoir la même chose, mais dans un petit flacon de 30 ml et en poudre, avec une date de péremption de 5 ans à température ambiante contre 42 jours aujourd'hui. Et bien, ce qui en fait aussi la richesse, c'est qu'il n'y a pas de typage sanguin. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question, quel est le type sanguin en fait, du patient qui recevra cette molécule.
Donc, ça va permettre de conserver les organes plus longtemps, d'éviter des pertes. Quand on sait qu'il y a 23 000 personnes en liste d'attente, c'est dire hein, effectivement l'ambition des Marina.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, la greffe d'organes en fait est un peu victime de son succès. En fait, aujourd'hui, il y a 24 000 personnes sur liste d'attente. Et moi, ce qui me met un peu hors de moi et ce qui me fait avancer, qui me donne toute l'énergie, c'est que savoir que sur cette liste d'attente, il y a 700 personnes qui vont décéder à la fin de l'année. Et donc aujourd'hui, il faut savoir que la greffe, c'est une course contre la montre. En fait, un cœur, on peut le garder que 4 heures, un poumon 6 heures. Notre produit permet de donner du temps aux chirurgiens et des organes en meilleure qualité. Et donc, bien évidemment, nous, c'est d'éviter en fait, de perdre un organe. Et aujourd'hui, on perd un organe sur deux. Donc, c'est énorme.
C'est le professeur Lantieri qui vous avait remis, entre autres, ce trophée l'année dernière. Professeur avec lequel vous avez travaillé, hein, justement. Vous avez réalisé des greffes grâce à Emarina en partenariat avec lui.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le professeur Lantieri qui est pas très loin d'ici, hein, la PHP Georges Pompidou, en fait, nous a sollicité pour avoir accès à notre technologie. Vous avez peut-être entendu parler de la seconde greffe du visage d'un patient. Et son nom, il s'appelle Jérôme Hamon. Il va très bien. 2 ans après sa greffe, il est en pleine forme. Il a retrouvé en fait une activité, une vie sociale et une activité professionnelle. Et ça, en fait, on a apporté cette technologie au professeur Lantieri, qui a permis en fait de greffer Jérôme et surtout conserver ce visage, cette face, beaucoup plus longtemps que ce qu'il pouvait faire dans la routine.
Que dit notre coach, Thomas de Richebourg ?
Oui, c'est remarquable ce que vous avez fait. On sait qu'il y a 22 000 en liste d'attente, 23 000, 24 000, il y en a 24 000, il y en a 6 000 qui se font opérer. Est-ce que maintenant, systématiquement, dès l'instant où il y a une récupération d'un organe, est-ce qu'on utilise votre technique immédiatement pour pouvoir conserver cet organe? Parce que vous dites, on en perd 1 sur 2 encore, ce qui est énorme.
Alors, ça serait vraiment notre rêve et notre ambition. Aujourd'hui, en fait, on est dans un méandre en fait, réglementaire.
Oui.
Et donc, on est en train de passer ces réglementations européennes qui ont changé. Depuis la création des marinages, j'ai connu 3 réglementations européennes. Et aujourd'hui, en fait, ce produit est prêt à arriver sur le marché, mais on attend encore en fait, un numéro pour mettre sur nos boîtes. Et c'est ça qui me met un peu hors de moi, c'est-à-dire le temps de la recherche aujourd'hui qui est prête. En fait, on attend ce marquage pour pouvoir le commercialiser dans le monde entier.
Et qui le délivre alors, ce marquage?
Alors, ce marquage, c'est ce qu'on appelle des organismes notifiés, c'est l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a un problème majeur, c'est-à-dire qu'en France, il y a absolument pas d'organisme notifié agréé par la nouvelle réglementation. Donc, on a été obligé de passer par un autre organisme notifié qui est anglais, qui s'est installé en Hollande. Et aujourd'hui, on est bloqué dans ce marasme réglementaire.
Vous avez en parallèle, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles, continué à développer la production de vers marins du côté de Noirmoutier?
Oui, bien sûr. En fait, cette ferme est pleinement opérationnelle à l'Épine, à Noirmoutier. Et on a développé d'autres applications.
Production Arrénicole, hein, c'est
oui,
comme ça.
Ce verre, il s'appelle Arrénicola Marina. En breton, on l'appelle le buzug. Il est plus connu pour les pêcheurs en fait, qui vont pêcher le bar. Et nous, on l'utilise pour extraire cette molécule. Donc, on produit ce verre en aquaculture. Donc, il est hors de question pour nous d'aller défonner toutes les plages de Bretagne ou entre la mer du Nord et Biarritz. Et on produit en fait ce verre en conditions complètement tracées et contrôlées. Et avec ce produit, aujourd'hui, on a développé une nouvelle application dans tout ce qui est maladie parodontale ou périimplantite, en fait, ce qui permet de nettoyer en fait ces poches qui sont en fait qui vont avoir pour conséquence de enlever la dent en fait, et puis surtout en fait de retirer l'implant. Et donc avec cette molécule, on est capable en fait d'améliorer sa cicatrisation en fait de ces implants dentaires.
Une sorte de seringue de gel, c'est ça?
C'est ça, en fait, c'est une seringue qui contient de l'acide hyaluronique plus cette molécule qui est capable en fait de nettoyer ses poches parodontales.
Depuis les trophées, vous avez aussi embauché des gens, signé un accord avec une société française.
Oui, tout à fait. Donc en fait, on a embauché pas mal de gens. Puis en fait, Emarina aujourd'hui, c'est à peu près 50 de personnes. Et donc, on a signé aussi un accord avec une société qui s'appelle Delpharm. Donc, nous, on produit les verres. Eux, ils extraient cette molécule. Cette société, c'est une société française, une belle société qui est basée, en fait, ils ont 11 usines en Europe. Et nous, on a notre atelier de production, en fait, à Tours.
Elisabeth, on est en train de parler de quelque chose de très médical. Oui. Je voudrais qu'on reste quelque part dans la technique avec Aglaé, qu'on a adoré l'année dernière, qui était nommée dans la catégorie des coups de cœur des auditeurs. Comment va Aglaé?
Alors déjà, Aglaé, pour ceux qui ne s'en souviennent peut-être pas, c'est une entreprise spécialisée en végétal luminescent. C'est un concept unique au monde. C'est un sérum nutritif qui est capable de rendre des véritables plantes luminescentes sous l'effet d'une source de lumière noire. Ça fonctionne sur tout type de fleurs coupées et plus récemment sur des plantes en racines et même sur des petits conifères. Donc depuis sa sélection au Trophée de l'Avenir 2019, Aglaé s'est fait une place. Ça commence à rayonner sur le marché international. L'effet de la luminescence à terme, c'est de proposer des services d'aménagement d'intérieur, des panneaux végétaux, de mobilier, des logos d'enseignes et ainsi que des aménagements des vitrines de magasins. Son objectif d'ici 2 à 3 ans, c'est de développer cette technologie de phosphorescence végétale pour emmagasiner la lumière du soleil afin de la restituer la nuit pendant 8 à 12 heures et sans aucune consommation électrique. Aglaé va bien.
Aglaé va bien, comme la plupart d'ailleurs des trophées de l'avenir 2019 Europe 1. On reste ensemble bien sûr.
Il est 13h18.
Europe 1.
Ils étaient nommés dans la catégorie environnement avec leur lessive naturelle et biodégradable. On part à la rencontre des petits bidons. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin. Ce soir, Europe 1 organise la 5e édition des Trophées de l'Avenir. L'occasion de revenir sur le parcours des nommés et vainqueurs de 2019. Un an après, que sont-ils devenus? Eh bien, ils sont avec nous et vous pouvez leur poser des questions au 39-21, 50 centimes la minute.
Eh oui, nous sommes avec certains des lauréats, certains des candidats de ces trophées 2019 de l'avenir Europe 1. Notamment avec vous, Cyril Neves, bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver, fondateur de la start-up Les Petits Bidons. Vous aviez imaginé l'année dernière, quand on vous avait reçu, une lessive composée à plus de 99% d'ingrédients naturels et biodégradables. Elle était en crowdfunding à l'époque, quand vous étiez venu en plein lancement ici dans les studios d'Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
C'était le tout début, quand on s'est vu l'année dernière. Et il s'est passé des centaines de choses depuis. Ça a été tonitruant. Puisque là, quand on a fait un peu le bilan à la fin de l'année, c'est plus de 500 000 lessives qui ont été réalisées avec les petits bidons. Donc 500 lessives propres. Donc ça, c'était une super nouvelle. Et c'est aussi nos engagements du départ. Donc on était hyper contents. Et puis ça continue en fait, on a des gens qui nous suivent, on a plus d'un millier de retours de consommateurs qui sont hyper satisfaits et qui recommandent les petits bidons, et ça c'est aussi une fierté.
C'était au tout début de l'aventure quand vous êtes venu ici dans La France bouge. Aujourd'hui, comment ça va? Vous vous êtes développé?
Oui. Alors oui, aujourd'hui, alors on était deux à l'époque, mon associé et moi. Maintenant, on est six dans l'entreprise, donc ça a été une super aventure aussi de ce côté-là, de
vous
création d'équipe. Donc on a embauché, donc le passage à La France bouge nous a permis de nous faire connaître et de créer aussi des emplois. Donc ça, on vous remercie là-dessus.
on est ravis.
Non, mais c'est vrai. En fait, ça permet aussi à des entreprises françaises engagées de se faire connaître, surtout quand on joue sur des marchés où il n'y a que des mastodontes derrière. En fait, c'est grâce aussi à des passages comme ça qu'on arrive à se faire connaître et à rentrer petit à petit dans le foyer des gens.
Vous avez développé de nouveaux produits depuis, la gamme s'élargit aujourd'hui chez les petits bidons?
Alors, il y a deux nouveaux produits qui sont sortis depuis qu'on est venu. Donc, il y a toujours les 5 lessives et on a un doseur qui est arrivé, en fait, pour doser parfaitement, qui est un doseur réutilisable en verre et en liège, qui a été demandé par nos consommateurs. En fait, on essaye à chaque fois d'être à l'écoute. La marque, elle vient de vraiment, nous, nos expériences personnelles. Et donc, on continue à développer par rapport à ce que nous demandent les consommateurs. Donc, on a sorti le doseur en verre et en liège. On a sorti un détachant aussi à plus de 99% d'ingrédients naturels avec les mêmes chartes pour justement répondre aux tâches les plus rebelles et aux petits accidents du quotidien. Et
alors, si mes souvenirs sont bons, ça fonctionnait par abonnement, parce que vous dites, les Français, nous, on aime bien les abonnements. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne toujours?
Exactement. En fait, on vend toujours en ligne sur notre site lespetitsbidons.fr et on a une formule en abonnement et on vend aussi en unitaire.
Que dit notre coach Thomas de Richebourg?
Déjà, je vais le faire parce que j'utilise d'autres lessives certainement qui sont bourrées de pesticides ou de produits chimiques, et juste en termes d'efficacité. Parce qu'évidemment, on a des enfants, on a beaucoup de linge à laver, beaucoup de tâches, comme vous disiez, rebelles. Est-ce qu'en termes d'efficacité, c'est exactement la même chose? Vous pouvez garantir ça? Là, il y a un nouveau produit qui vient de se créer pour encore plus de tâches rebelles. Voilà, moi, c'est la seule chose que j'aurais à poser, c'est l'efficacité.
Et c'est exactement ça. En fait, on a testé en laboratoire, aussi sous contrôle dermatologique, on a testé l'efficacité sur nos lessives. Et donc, on a une efficacité optimale sur les tâches du quotidien. Et quand on a des petits accidents, et c'est ce que je disais, sur des tâches plus rebelles, justement, on a ce super détachant où on vient l'appliquer directement sur la tâche pour jusqu'où aussi s'en débarrasser. On a fait des crash tests. On est assez hyper satisfait.
Le ketchup et tout ça. Ouais. C'est un abonnement, et après, où est-ce qu'on va récupérer donc la lessive? C'est à quel endroit?
Alors, il y a plusieurs options. Vous pouvez vous la faire livrer directement chez vous. Vous pouvez aussi la faire livrer en point relais, de façon assez classique. Et puis, on propose à Paris, dans nos locaux, de faire du vrac. Donc, en fait, les gens peuvent acheter en ligne avec un système de click and collect et venir re-remplir leur bouteille pour justement donner une seconde vie au contenant, qui a toujours été aussi un des grands sujets.
Alors justement, j'allais y venir, le contenant, Cyril, parce que je vous avais posé la question l'année dernière, donc je n'ai pas oublié.
Et ça a changé.
Ça a changé. Ouais. Alors, racontez-moi.
Alors, en fait, on était arrivé avec une bouteille en PET recyclable.
Oui.
Et depuis, on a fait un sacré chemin parce qu'on a réussi à créer une bouteille qui est 100% issue de déchets, donc qui est en PET 100% recyclée et qui est toujours recyclable. Et en plus, on a une bouteille en verre consignée qui va être lancée dans quelques jours, semaines, sur la région parisienne. Donc, on va pouvoir livrer chez le consommateur, nettoyer et re-remplir.
Donc avec toujours ce souci de toujours plus écologique.
Ouais, en fait, c'est ce que je dis assez souvent, c'est qu'en fait, l'écologie, ça ne s'arrête pas à la formule. Alors, c'était l'angle d'attaque au démarrage, parce qu'en fait, les formules des lessives sont sacrément opaques et sacrément toxiques. Et donc, en fait, on a eu envie de commencer par la formule. On a travaillé notre pack en plastique pour qu'il soit meilleur. On travaille aussi les usages, parce qu'en fait, il y a la formule, le contenant, les usages, et c'est un peu comme ça qu'on essaie de travailler chez les petits bidons.
Elisabeth, il y avait une autre start-up qui nous avait beaucoup plu, Connecting Food.
Ah, Connecting Food, qui avait été nommée dans la catégorie alimentation l'an dernier. Connecting Food, c'est une solution pour renforcer la confiance dans la filière alimentaire. Ils misent tout sur la transparence dans les filières. En ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on mange, ce qu'il y a à l'intérieur. Eux, c'est une traçabilité garantie par blockchain. Alors, depuis un an, Connecting Food, eh bien, ils sont passés de 7 à 23 collaborateurs. Ils sont toujours basés à la station F à Paris. Ils ont une vingtaine de clients sur une dizaine de filières, hein, dans la filière du lait, de la farine, du porc, du canard, des fruits, des légumes, du miel et de la génétique animale.
Et puis des nouvelles de Hop Hop Food, eux aussi étaient nommés dans la catégorie alimentation.
Hop Hop Food, petit rappel, hein, c'est une application, c'est une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité. Par exemple, vous allez partir en vacances, il vous reste 3 œufs, 2 yaourts dans votre réfrigérateur, et bien avec Hop Hop Food, au lieu de les laisser mourir, et bien vous allez les donner à Hop Hop Food et on va les redistribuer. L'application a permis le don et la collecte de presque 90 000 produits dans la France entière, ce qui a donc favorisé la solidarité de proximité entre particuliers. Parce que si ça se trouve, grâce à Hop Hop Food, votre voisine du 8e étage va récupérer vos yaourts alors que vous n'auriez pas été au courant sans cette application. Autre action, ils commencent à développer un réseau de garde-manger solidaire hébergé par des associations partenaires. Ils travaillent avec une centaine de bénévoles volontaires en service civique et ils sont en train là, de recruter les premiers salariés.
Et puis Poulaus, je sais que vous adorez Poulaus,
ouais, j'adore Poulaus.
Hein, vous êtes fan. L'œuf qui ne tue pas la poule.
Mais oui, parce que Poulaus, vous savez que la durée de vie moyenne d'une poule, c'est 18 mois. Parce qu'après, on se dit, après 18 mois, elle ne va pas donner beaucoup d'œufs. Ça va être, la ponte sera moins importante. Et Poulaus, eux, ils se sont dit, non, on va les sauver et on va les élever jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce qu'elles peuvent pondre jusqu'à l'âge de 6 ans des œufs de qualité, gros calibre. Et bien, c'est simple. Aujourd'hui, on trouve leurs œufs dans quasiment toutes les enseignes en France.
On reste ensemble avec nos trophées 2019 aujourd'hui. Séquence souvenir sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Elle avait ému les internautes avec son message de solidarité en direction des mamans qui n'ont rien. On prend des nouvelles dans un instant d'un petit bagage d'amour. A tout de suite.
Europe 1.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La Frange Bouge. Ce soir, à l'Élysée Biarritz à Paris, auront lieu les trophées européens de l'avenir, présentés par vous, Raphaël Duchemin. Alors dans La Frange Bouge, jusqu'à 14h, on a décidé de revenir avec les nommés et vainqueurs de l'édition précédente sur ce qui a changé pour eux depuis un an. On fait le bilan et vous pouvez y participer, en vous aussi, sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, et je peux vous dire qu'on est émus, on est fiers, on est heureuse, hein, Elisabeth.
Très heureuse
de recevoir.
C'est rempli d'ondes positives dans ce studio.
Oui.
Hein, il n'y a que des bonnes nouvelles. Voilà.
Et c'est, oui, c'est aussi ça, vous informer autrement, vous montrer qu'il y a des gens qui, au quotidien, travaillent pour inventer des solutions pour vous, pour vous changer la vie, tout simplement. C'est votre cas, Samra Abaïdia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sage-femme et présidente fondatrice d'un petit bagage d'amour. Vous étiez l'année dernière nommée dans la catégorie Trophée de l'avenir Solidarité. L'association Un petit bagage d'amour, elle est née parce que vous vous êtes rendu compte qu'autour de vous, il y avait des mamans qui accouchaient et qui n'avaient rien. Qui avaient juste un petit body à mettre, parfois même pas, sur leur enfant.
Tout à fait. Je travaillais donc dans un hôpital où il y a beaucoup de précarité, un hôpital mère-enfant qui prend en charge les mamans qui présentent des difficultés donc médico-psychosociales. Et souvent, la précarité est liée à tout cela. Donc, ça m'arrivait, ainsi qu'à mes collègues, de transférer des patientes pour l'accouchement sans aucune affaire pour le bébé, avec des petits sacs plastiques, même pas une couche, pas un body. Tout à fait. Et du coup, c'est de là qu'est venu le déclic. Surtout que moi aussi, j'étais enceinte à ce moment-là et en train de préparer mon bagage. Et j'étais plus émue qu'à l'accoutumée. Donc voilà, ça a démarré en 2016. Donc ça va faire 4 ans bientôt qu'on évolue.
Alors 2016, effectivement, vous étiez venue l'année dernière nous voir sur Europe 1, dans La France Bouge. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour Un petit bagage d'amour et comment est-ce que vous avez vécu votre passage au Trophée de l'avenir?
Alors notre passage nous a donné donc une grande visibilité nationale et même un peu partout, enfin en dehors de la métropole. Donc depuis, on a eu des annexes qui se sont ouvertes, on a eu des propositions de personnes qui... ont ouvert donc des annexes. Il y en a la première au Mans, la deuxième à Rennes, Et donc là, d'autres antennes sont en cours d'ouverture, notamment à Lille, et nous espérons Marseille. Donc si des personnes sont motivées à Marseille, car il y a des demandes là-bas, beaucoup de demandes, ainsi qu'à Lyon, contactez-nous sur notre page, donc la page Facebook Un Petit Bagage d'Amour.
Quand vous êtes passé sur Europe 1, vous nous avez dit c'est incroyable parce qu'on a reçu énormément d'appels de gens qui voulaient nous donner des vêtements, oui. Nous donner des choses pour les enfants.
Tout à fait. Alors les dons ont afflué, les dons matériels, les dons en argent. Vraiment, on a été débordés. On a reçu des colis de partout, de Guyane aussi, de Martinique. Parfois, c'est vraiment touchant. Les gens sont touchés par cette précarité qui touche vraiment les personnes vulnérables, en fait. Donc parfois, elles nous font des colis avec deux petits bodys, des couches pour mettre leurs mains à la pâte. Et on a eu aussi beaucoup de demandes de bénévoles, propositions de bénévolat. Donc nos bénévoles ont accru. On a vraiment un petit pool qui tourne très régulièrement. On arrive à faire 2-3 permanences par semaine donc pour pouvoir préparer ses bagages, les distribuer. Et,
oui, parce que vous préparez la petite valise pour que les futures mamans aillent. Voilà. Aille à l'hôpital ou aille à la clinique à coucher.
La petite valise avec le minimum nécessaire pour que les patientes puissent bien accueillir leur bébé, même dans la précarité.
Vous disiez tout à l'heure que vous avez eu des demandes qui viennent de loin. Vous avez d'autres pays qui vous ont contacté ?
Alors, il y a le Maroc, donc la ville de Tanger, qui aimerait ouvrir une antenne là-bas. Tout à fait.
Donc, notre coach, Thomas de Richebourg.
Oui. Déjà, c'est très généreux là, ce que vous faites. C'est une association que vous avez ?
Oui, c'est ça.
Alors, ça ne fonctionne que sur du don ?
Que sur du don, d'accord. Oui, tout à fait. On achète aussi, il y a des choses qu'on n'arrivait pas à avoir, comme les produits d'hygiène. Oui. On cherche des partenariats, vraiment, ça, on n'a pas encore réussi à avoir.
C'est déjà le cas l'année dernière. Vous cherchez des partenariats dans les produits d'hygiène. C'est ce qui est le plus difficile à trouver.
C'est ce qui est le plus difficile. On a des dons ponctuels, parfois, mais on veut vraiment un partenariat sur le long terme pour pouvoir combler les besoins.
C'est quoi les produits d'hygiène que vous recherchez ?
C'est tout ce qui est sérum physiologique, gel l'avant-bébé, gel douche maman, liniment, vous savez le produit pour nettoyer les fesses de bébé, et les couches aussi. Les couches, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin et qui part très vite.
Elisabeth, vous avez regardé un petit peu ce qui se passait dans toutes les catégories. Oui. Si on parlait de la mobilité, tiens, comment va notre trophée de l'avenir de l'année dernière ?
L'année dernière, c'était WeGoTo qui calcule les itinéraires sans obstacle, très très pratique pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes malvoyantes, sourdes ou encore tout simplement pour les cyclistes. Alors, on a reçu de leurs nouvelles. Tout d'abord, WeGoTo est partenaire du projet Handicap Innovation Territoire de l'agglomération de Lorient. Lorient qui est donc considéré comme une ville novatrice en matière d'accessibilité. Et ils vont participer à la structuration du territoire inclusif de référence en Europe d'ici 2030.
Et puis donnez-nous des nouvelles de nos amis des pompiers du Berry en collectivité locale.
Le SDIS, le Limbre, qui a créé une économie circulaire parce qu'il transforme les déchets des tenues de pompiers en isolant. L'isolant est ensuite intégré dans les constructions des casernes. Ils en auront isolé 10 là à la fin 2020, c'est-à-dire 20% des bâtiments des pompiers. Cet isolant a focalisé aussi l'intérêt des réseaux sociaux. Ils ont eu plus de 3 millions de vues après leur passage dans les trophées de l'avenir, et donc dans la France bouge. Et voilà, et ce qui a attiré les industriels, c'est vraiment ce principe de l'isolant et ce principe de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'à partir de la tenue de pompier, on va refabriquer autre chose. Et ils ont même signé une collection de mode grand public portée par l'un de nos coachs.
Thomas Huriez.
Exactement, des jeans 1083. Et ils ont donc signé un partenariat d'expertise et d'image autour de la collection d'habits éco conçu volontaire.
Puisqu'on parle d'habits, Samra Baïdia, vous avez aidé combien de femmes par semaine depuis un an ? Vous avez une idée ?
Alors, depuis un an, c'est à peu près 150 par mois, à peu près.
150,
c'est énorme.
Par mois. Donc, multiplié par 12, 1500 en plus, voilà, 1700 à peu près.
Et je crois que vous avez quelques anecdotes qui vous ont marqué.
Ah oui, il y en a. Surtout cet hiver, depuis le début, beaucoup d'anecdotes de quand les mamans viennent chercher un bagage, il n'y a pas que le bagage dont elles ont besoin, il y a d'autres problématiques, le problème des mamans à la rue avec leur bébé.
Donc le bagage d'amour.
Voilà. Donc ma coprésidente, donc Shiraz, depuis un mois, œuvre activement pour les mises à l'abri. Donc elle met en relation les familles qui peuvent héberger des mamans bébés. et les bébés et mamans à la rue. Donc il y en avait énormément, on était vraiment dépassés. Les associations sont dépassées pour le logement. Donc voilà, c'est des aides ponctuelles, solidaires, mais il y a une grande solidarité qui existe encore et au moins ça nous a permis de voir ça.
Oui, vous nous avez raconté hors micro qu'effectivement il y avait une maman qui avait appelé son bébé Jean-Pierre.
Ah oui.
Et vous aviez été très touchée parce qu'au départ vous n'avez pas compris pourquoi.
On n'a pas compris pourquoi, surtout que la maman n'avait pas un profil à appeler son bébé Jean-Pierre à la base. En fait, elle a traversé, donc ça remonte à un an à peu près, elle a traversé donc la Méditerranée avec des bateaux, un bateau de fortune, vous voyez, et elle était enceinte à ce moment-là. Et un homme lui a sauvé la vie. Il s'est en gros sacrifié. Il a laissé la place à la maman. Le bateau était en train de couler. Plusieurs personnes sont mortes. Et il a laissé la place à cette maman pour qu'elle puisse survivre. Et donc lui est décédé dans le naufrage.
Et voilà. Aujourd'hui, ce bébé porte le nom.
Porte le prénom. Voilà, elle a voulu lui rendre hommage. Tout à fait.
On reste ensemble et on continue à partager ces émotions avec vous. Les trophées Europe 1 2019.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on va s'intéresser au domaine de l'éducation. Elle avait suscité à l'époque un vrai débat en créant New School. Fini Pindolbo, 20 ans, a beaucoup avancé depuis. Elle est avec nous dans un instant. A tout de suite.
Ce 27 janvier, c'est la remise des prix des trophées européens de l'avenir. Vous présentez cette 5e édition, Raphaël Duchemin. Et alors avant de connaître les nouveaux vainqueurs, on a décidé de s'intéresser un an après à ce que sont devenus les nommés de 2019. C'est La France Bouge et vous avez la parole au 39-21, 50 centimes la minute.
Et nous sommes avec les candidats, les lauréats de ces trophées 2019, trophées de l'avenir européen, étaient nommés dans la catégorie éducation. Philippine Dolbo. Bonjour Philippine.
Bonjour.
Créatrice de New School. New School, on va rappeler aux auditeurs d'Europe 1 ce que c'est un porte-clés connecté. Ça avait suscité à l'époque un vrai débat quand vous avez lancé ce porte-clés sur le marché.
Tout à fait. En fait, c'était un porte-clés qui permettait de faire l'appel dans les collèges, lycées et universités. Ça a très bien marché. J'ai monté ça quand j'avais 15 ans, j'en ai aujourd'hui 20. Et mon dernier passage au Trophée de l'Avenir a énormément changé de choses dans ma vie, puisque ces derniers mois, mon entreprise a été rachetée par une autre entreprise qui s'appelle Classroom, toujours dans le domaine de l'éducation, qui est une application de communication entre les parents et les enseignants des écoles primaires. Et j'ai aujourd'hui la chance, donc non seulement d'être sur votre plateau, mais de travailler dans cette belle entreprise qui est aussi, je crois, une belle réussite française, qui viendra peut-être un jour sur votre plateau, mais qui a le potentiel de devenir une grande réussite à l'international. Et j'en suis ravie. Donc merci encore une fois de m'avoir nominée.
Bah merci d'être avec nous. Et racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour le porte-clés? Il existe toujours? Il n'existe plus?
Non, le porte-clés n'existe plus, mais la fonctionnalité d'appel a été reprise par Classroom. Donc les professeurs des écoles primaires qui utilisent Classroom aujourd'hui peuvent faire l'appel grâce à la technologie New School.
Tout à fait. Dans une quarantaine de pays, c'est ça?
Alors, dans une quarantaine de pays, tout à fait. On a pas mal d'autres fonctionnalités également pour les parents. On a une entreprise, et c'est aussi une vraie chance, je crois, une entreprise solidaire, sociale, et qui travaille vers l'inclusion de tous, notamment dans un milieu qui est assez compliqué, hein, les écoles primaires, l'éducation. Et donc, on a travaillé ces derniers mois sur la fonctionnalité d'appel, et puis sur une fonctionnalité pour les parents allophones qui ne parlent pas la langue qui est forcément parlée dans les écoles, et qui permet de traduire tous les messages qui sont envoyés dans l'application Classroom pour ses parents. Et ces traductions, il y a à peu près 30 langues qui sont utilisées, mais on a traduit ça dans plus de 100 langues. Donc c'est une super aventure et je suis ravie d'en faire partie.
Vous pensiez l'année dernière, quand vous êtes venue pour New School au Trophée Europe 1 de l'Avenir, changer de vie, changer de cap?
Certainement pas.
Franchir une étape aussi importante?
Non, je ne pensais pas du tout. Quand je suis venue vous voir, on venait de commencer la commercialisation avec New School. C'était très compliqué parce que moi, je passais mon bac. Là, je termine encore mes études, donc j'avais une vie des journées de 48 heures pour le coup.
Celle qu'on aimerait bien avoir.
Exactement. mais cela dit, je crois que c'est le... J'ai mis beaucoup de temps, si vous voulez, à me dire, ok, est-ce que je change de vie? C'est aussi difficile de passer de l'entrepreneuriat au salariat.
Alors comment c'est?
C'est génial. C'est génial. En tout cas, chez Classroom, c'est top. Mais c'était plein de changements. Et puis, ça voulait dire aussi une nouvelle organisation, etc. Et ça se passe très, très bien. Et je suis plus que ravie.
Ouais. Ouais, vous dites, j'ai quand même dû me battre contre pas mal de stéréotypes.
Beaucoup de stéréotypes. C'est tout con, mais je suis une femme. J'avais 15 ans. Je sortais d'une filière littéraire. J'étais nulle en maths et je ne savais pas coder. Et pourtant, j'ai monté ma boîte dans le domaine du numérique et de l'éducation. Et là, pour le coup, donc tout ça, c'était ces stéréotypes auquel j'ai dû faire face. Et au-delà de ça, j'ai dû faire face, et on le fait face aussi également avec la SROUM, à un marché qui est l'éducation primaire, l'école primaire, qui est assez compliqué. Et qui est plein de challenges aussi, et où il y a un énorme terrain de jeu, si vous voulez. Et c'est ça qui me passionne aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de choses à faire, et que Classroom est l'un des acteurs principaux aujourd'hui en France, si ce n'est l'acteur principal sur la communication entre les parents et les profs. On vient de fêter nos 400 000 utilisateurs cette semaine, donc c'est une belle réussite, mais ça n'a pas toujours été facile. Ouais.
Thomas de
Richebourg. Oui, c'est utilisé dans tous les établissements, essentiellement pour le primaire, le secondaire, ou c'est...
Alors, Classroom, c'est uniquement dans le primaire, ouais. Dans une quarantaine de pays. Et c'est effectivement un vrai succès.
Donc, vous êtes en partenariat avec l'éducation nationale ?
Alors, on travaille avec l'éducation ouais. nationale, effectivement, avec des académies. Et puis, dans tous les autres pays, en fait, ce sont les enseignants qui utilisent de leur plein gré l'application.
D'accord.
Ou des écoles qui choisissent.
Et alors, maintenant, vous faites quoi, vous ? Parce que vous avez été racheté. Alors, ouais. vous travaillez sur quoi, maintenant ?
Alors, moi, je suis vice-présidente de Classroom, mais je travaille sur tous les sujets liés à l'internationalisation, qui D'accord. est vraiment... un vrai sujet.
On a exporté.
Tout à fait. Aujourd'hui, Classroom a le potentiel, et c'est quand même assez énorme dans une boîte de l'éducation en France, d'être ce qu'on appelle une licorne, en fait, à l'étranger. Donc, une boîte qui vaut 1 milliard d'euros. Et donc, c'est un vrai challenge. Donc, on est dans 40 pays. Il faut consolider ces 40 pays. Et il faut aussi travailler sur l'expansion aux États-Unis.
Vous travaillez à plein temps maintenant dans cette structure ?
Non, pas encore, puisque je termine encore mes études jusqu'à fin mars.
Mais vous faites quoi comme études alors ?
Ouais. Je fais des sciences et politiques de l'éducation. C'est tout ce qui est la forme de l'éducation. Donc c'est vraiment mon truc. Ma grand-mère et ma mère étaient profs, donc je crois que ça ne vient pas de nulle part non plus.
Non, sûrement pas.
Voilà. Mais j'adore ce que je fais.
Vous allez réussir à réunir les deux. Bravo.
Ouais, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Merci.
Et là, vous avez 20 ans.
Et là, j'ai 20 ans.
Bravo.
Toujours en catégorie éducation, on a des nouvelles de Chemin d'Avenir.
Oui, Chemin d'Avenir, souvenez-vous Salomé Berliou, qui accompagne désormais plus de 1000 jeunes. Hein, je vous rappelle, Chemin d'Avenir, hein, c'est pour aider les jeunes qui ne vivent pas forcément dans les villes, hein, les jeunes ruraux qui ont souvent des parcours semés d'embûches quand ils ont envie d'aller étudier dans les grandes villes. Hein. Elle-même, Salomé Berliou, a quitté l'Allier puis la Nièvre pour venir à 18 ans étudier à Paris. Et quand elle est arrivée à Paris, bien, il fallait lutter contre déjà l'auto-censure hein, qu'elle s'infligeait elle-même. Est-ce que j'ai le niveau pour faire ça ? Est-ce que je peux me permettre d'avoir envie de faire telle ou telle étude ? L'auto-censure des écoles. Et donc, ça, c'est l'ambition de Chemin d'Avenir. Et d'ailleurs, Salomé Berliou, depuis le mois de septembre, elle planche. Il y a le ministre de l'Éducation nationale qui lui a confié une mission pour réfléchir à ces obstacles rencontrés par les jeunes qui habitent loin des villes.
Je voudrais qu'on termine d'un mot avec le vainqueur de la solidarité, trophée de l'avenir, permis de sauver.
Permis de sauver en solidarité. C'était, eux, ils le disent, hein, c'est simple, après la nomination au Trophée de l'Avenir, on a pu augmenter les chances de survie de certains de nos concitoyens. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. Il y a une énorme visibilité qui leur a permis de constater des pics de téléchargement très importants. À chaque fois, il y avait plus de 50 000 téléchargements. Et certains de ces maillons ont été sollicités par les services d'urgence. Ils sont intervenus pour des urgences relatives, mais aussi pour des urgences vitales. Et ce trophée leur a également permis de renforcer la confiance entre les partenaires, le SAMU, le SDIS, mais également d'initier de nouvelles collaborations entre toutes ces collectivités, toutes ces associations.
Merci à tous d'être venus nous rappeler ces bons souvenirs passés avec vous l'année dernière pour les trophées. Vous leur dites quoi au trophée de cette année, aux candidats ? Un petit mot pour eux ?
Quoi qu'il en soit, c'est que du bonheur.
C'est que
et
du bonheur.
De vivre pleinement la soirée.
Ah oui, passer une très bonne soirée, c'était vraiment excellent l'année dernière.
Bon, eh bien, c'est ce soir et demain, ils seront avec nous.
On va tout
vous
raconter demain.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Il est 13h48.
Europe 1.
Des cantines urbaines made in Marseille qui cartonnent depuis 2008. Les SPOC ont poussé comme des champignons et c'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et on va revenir sur des notes plus positives dans La France bouge avec vous, Raphaël, l'entreprise qui va bien, merci.
Et cette entreprise, eh bien, c'est SPOC, S-P-O-K, restaurant, réseau de franchise de cantine urbaine qui a démarré son aventure à Marseille. Bonjour Christophe Juville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
C'est vous qui avez lancé cette aventure. Hein. Au départ, vous montez un premier restaurant sur le Vieux-Port. Vous avez 27 ans, je crois.
Alors.
Avant l'aventure SPOC.
23 ans.
Ouais.
Ouais. Sur la rue Sainte, pour être précis, c'est pas très loin du Vieux-Port, et c'est juste derrière.
La girafe, hein, c'est ça.
Exactement.
Et puis le deuxième est sur le Vieux-Port, là,
absolument,
pour le coup, quelques années plus tard.
Absolument.
Vous êtes tout seul, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, dans l'entrepreneuriat, à l'époque?
Assez tôt, oui, à 23 ans, et puis ça fonctionne plutôt bien, un premier restaurant, puis un deuxième, ensuite en troisième, et Spock est né.
Alors Spock, ça naît comment justement? Quelle est la philosophie derrière Spock? Vous dites ce sont des cantines urbaines.
Oui.
C'est quoi une cantine urbaine? Pour ceux qui ne connaissent pas encore.
C'est une très bonne question puisque la cantine urbaine, elle est à mi-chemin entre la restauration traditionnelle que l'on connaît tous, de bistrot, et ce que l'on pourrait appeler la restauration rapide. Mais justement, en ce moment, on est en train de se poser la question et de se dire, au final, chez Spock, qu'est-ce qui est rapide? Puisque nous avons des chefs de cuisine qui sont en cuisine à 6h du matin, parfois même avant. Et le client lui-même passe au final beaucoup de temps chez nous. Si on doit faire la comparaison avec la moyenne dans un restaurant rapide, l'ambiance, le lieu et tout font que le client s'y sent bien. Donc voilà, donc, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Pourquoi est-ce que vous avez appelé votre restaurant, votre réseau de restaurants Spock? D'où ça vient?
Il n'y a pas vraiment de connotation, on risque de vous décevoir sur le...
Non, pas du tout, mais ça interroge.
Oui, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup. C'est, évidemment, on connaît tous Monsieur Spock.
Oui.
Voilà. Et derrière ce personnage, il y a tout
un imaginaire.
Une philosophie que je trouvais intéressante à travers. C'est une personne qui reste. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de loyauté, beaucoup de justesse. Je sais pas, le personnage en lui-même a beaucoup inspiré. Ça m'a plu. Ça serait très long d'en parler. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Alors, on est à Marseille et puis d'un coup, on se retrouve à Lille. C'est la première franchise. On est en 2013.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui se passe entre temps?
Il se passe, depuis, il se passe 34 restaurants aujourd'hui et quelques-uns
34,
à venir.
On a bien entendu.
34, oui. Vous avez bien entendu.
Ouais. On a eu une courbe, on a stabilisé, je dirais, de 2000. Alors, Spock est né en 2005, au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette à Marseille. Et puis, 2008, on quitte les Galeries Lafayette pour s'installer... rue Sainte également, enfin pas très loin, place Lully, et d'ailleurs le restaurant est toujours naturellement en activité, c'est ce que nous on appelle le berceau et le flagship du réseau. Et puis de 2008 à 2013, on consolide les bases, et de 2013 à aujourd'hui, nous avons installé pour l'instant 34 points de vente et restaurants. Et l'idée, naturellement, c'est de le développer de plus en plus.
On a 10 demandes par jour d'ouverture de gens qui veulent ouvrir une franchise.
Ben ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas.
Mais on mange quoi?
Oui.
Actuellement, alors, et c'est là où on va peut-être faire la différence aussi avec la restauration rapide, c'est qu'on axe beaucoup sur ce que l'on appelle les plats du jour. Donc on a 3 à 4 plats du jour tous les jours qui changent, puisque par définition ils sont du jour. Et également on a une large gamme en hiver de ramen, donc on connaît tous les ramen, les soupes, on a une gamme de sandwichs aussi, et de salades l'été qui s'étoffent naturellement, voilà. Et bien sûr des gourmandises, voilà.
Que dit notre coach de ce succès de Spock?
Incroyable ce succès. Mais ce sont tous des franchisés ou c'est vos restaurants ou c'est quoi le modèle?
C'est une bonne question. Il y a en partie ce que l'on appelle des succursales, donc des restaurants qui nous appartiennent, et une très grande partie en franchise, puisque nous avons choisi comme axe de développement la franchise. Voilà.
Donc vous avez un cahier des charges très
précis.
On a
un cahier des charges très précis. Ça va très loin. Ça va très loin. C'est ce qu'il faut pour que vous. En fait, l'idée c'est que vous puissiez
pour dupliquer.
Et l'idée c'est que vous puissiez retrouver à travers les codes majeurs de chez Spock, que ce soit à Paris, à Lille, en cité Lille, Bordeaux, Lyon.
Donc c'est des emplacements maintenant qu'il vous faut si vous avez 10 demandes par jour.
Oui, là, on a cette... Alors, c'est une...
Vous avez
c'est
ouvert à Rennes, hein, le 22 janvier, c'est tout récent.
On a ouvert à Rennes il y a 3 et 4 jours exactement, vous êtes bien renseignés. Et puis, on continue la progression. Donc là, on ouvre...
À la Défense, bientôt.
La Défense Nanterre, oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça sera donc en succursale également. Parce qu'on, ça fera partie d'un restaurant... assez grand format pour nous, parce que généralement les formats font entre 50 et 80 mètres carrés, sauf en zone tertiaire, des zones de bureaux où on a la possibilité de s'installer sur des surfaces plus grandes car les loyers sont moins onéreux qu'en hypercentre.
Et je vous invite aussi à découvrir les collaborations, parce que vous faites énormément de collaborations, et la prochaine c'est avec Nadia Samut, première étoile sans gluten, qui va faire un menu avec vous au mois d'avril. Je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir.
On est tellement fiers, on est très fiers de faire cette collaboration avec Nadia.
On va faire un plat du jour au repas aussi.
Exactement, pourquoi pas. Tiens, très bonne idée. Thomas, je vous donne rendez-vous ce soir, évidemment, pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'histoire de Spock. Elisabeth, on se retrouve ce soir, évidemment.
On va découvrir les gagnants.
Et demain, avec tous les lauréats des trophées de l'avenir.
On a hâte. Merci Raphaël Duchemin. C'était La France Bouge avec AXA Prévention, accompagnement des chefs d'entreprise, santé et sécurité des salariés. Retrouvez un dispositif de prévention gratuit sur le site axaprévention.fr. Restez avec nous, Christophe Fondelatte rend hommage à Michou dans un instant.